Deuxième cause d'invalidité à travers le monde, cause de souffrance psychique intolérable, la dépression fait des ravages. Mais comment la soigner ou les soigner? Car les formes de dépression sont très variées. Catherine Belzung, avec vous, nous explorons ces pathologies complexes. Je rappelle que vous êtes neurobiologiste, spécialiste de la dépression. On dit que les antidépresseurs n'ont pas évolué depuis des dizaines d'années. Est-ce que c'est vraiment vrai?
C'est vrai, c'est vrai. Les premiers antidépresseurs, on les a découverts par hasard à la fin des années 50.
Pourquoi par hasard?
Donc, les traitements, souvent, en fait, ils sont utilisés pour une autre...
pathologie?
Pour une autre pathologie. Donc là, ils essayaient un petit peu de modifier une molécule qui aurait pu avoir un effet dans la schizophrénie. Puis on s'est rendu compte par hasard que ça améliorait l'humeur de ces schizophrènes et donc que ça pourrait être préconisé dans la dépression. Et une autre molécule qui a été mise en place pour la tuberculose. Vous savez, dans ces années 50, la tuberculose était une maladie encore très fréquente et mortelle. Il n'y avait absolument pas de quoi être euphorique quand on avait la tuberculose dans ces années-là. On risquait plutôt le cimetière qu'autre chose. Et là, ils se sont aperçus que les personnes traitées avec le médicament qu'ils voulaient administrer pour traiter la tuberculose devenaient euphoriques. Donc, ce n'était pas du tout normal qu'elles soient euphoriques alors qu'elles étaient tuberculeuses. Et du coup, ils se sont dit, si ça rend les tuberculeux euphoriques, peut-être qu'on pourrait le donner à des dépressifs pour les soigner. Et c'est ainsi, en fait, que sont nés les premiers antidépresseurs.
Et depuis lors?
Et depuis lors, en fait, ce qu'ils ont essayé d'améliorer, c'est... les chercheurs, la communauté scientifique, essayer déjà de trouver des molécules qui aient moins d'effets secondaires. Les effets secondaires avec les premiers antidépresseurs, c'était alors notamment avec cette molécule dont je vous parlais qui a été d'abord administrée à des tuberculeux, c'était ce qu'on appelle l'effet vin fromage parce que le vin et le fromage contiennent une molécule et cette molécule peut entraîner des hypertensions qui peuvent être mortelles, mais normalement l'organisme a une molécule qui permet de contrer cet effet-là. Donc, normalement, vous prenez du vin et du fromage, personne n'en meurt, sauf excès absolu, évidemment, parce que l'organisme sécrète une antidote. Or, cette antidote est détruite par les premiers antidépresseurs. Donc, ça veut dire que les personnes qui prenaient ces premiers antidépresseurs ne pouvaient plus boire de vin et prendre de fromage, parce qu'elles n'avaient plus l'antidote aux effets de ces aliments et de ces boissons. Moi, franchement, si je...
Un bon français.
Si vous m'administrez une molécule et que vous me dites « j'ai plus le droit de prendre ni vin ni fromage », ça me déprimerait,
triste, pour le coup.
En fait. Donc, il y avait cet effet. D'autres effets sont des effets, on appelle ça des effets anticholinergiques, c'est-à-dire bouche sèche, constipation, enfin, etc. C'est pas des effets très graves, mais c'est quand même désagréable. Donc, du coup, les efforts ont surtout consisté à essayer de trouver des molécules qui ont un peu moins d'effets secondaires. Mais donc, ils ont pris, en gros, les molécules qui ont été inventées à la fin des années 50, elles augmentaient la neurotransmission de la sérotonine et de la noradrénaline, qui sont deux neurotransmetteurs. Donc, ils ont essayé de trouver des molécules qui agissaient de cette même façon, en augmentant ces neurotransmetteurs, mais sans avoir les effets secondaires. Mais en faisant ça, en fait, on n'a rien inventé de nouveau. On a juste un peu modifié ces mécanismes d'action initiaux pour essayer de supprimer les effets secondaires.
Aujourd'hui, il y a encore des effets secondaires aux antidépresseurs?
Il reste encore des effets secondaires, effectivement, mais ils sont beaucoup moins forts que ceux de l'époque. Donc, notamment, ces effets bouche sèche, ces effets vin fromage n'existent plus actuellement. Donc, les antidépresseurs existants sont anciens.
Mais comment ça se fait? On sait qu'il y a des découvertes constantes au niveau de la pharmacie, des médicaments. Comment dire que pour les dépressions, il y a si peu de nouveautés?
Effectivement, vous pouvez faire des études en regardant pour différentes pathologies, et ça a été fait, différentes pathologies neurologiques, psychiatriques ou même pathologies somatiques en général. Et vous pouvez regarder le nombre de classes différentes de molécules qui existent pour prendre en charge ces différentes thérapies. En général, vous trouvez systématiquement 5-6 classes de molécules différentes qui permettent de prendre en charge des pathologies, ce qui fait que s'ils ne marchent pas, on peut se replier sur une deuxième, troisième, etc. Pour la dépression, en fait, on n'a que ces deux cibles initiales qui consistent à augmenter la transmission de la sérotonine ou de la noradrénaline. Conséquence de ça, il y a plus de la moitié des patients qui ne répondent pas au traitement.
Plus de la moitié des patients?
Oui, ça a été quantifié. Donc, en réalité, la manière dont ça se passe en général, c'est que une personne a une plainte dépressive, elle va se rendre chez son médecin qui va lui prescrire un antidépresseur. Et à cette première administration d'un premier antidépresseur, il y a en général que un tiers des personnes qui voient leur situation s'améliorer. Les deux autres tiers n'ont pas d'effet de la molécule. Que font les médecins? Ils essaient un deuxième antidépresseur, ils essaient un troisième antidépresseur, ils modifient un peu la dose, ils modifient la catégorie de, enfin, la molécule. Mais même après trois essais, comme ça, où c'est des essais par essai et erreur, ils peuvent pas, les cliniciens actuellement ne peuvent pas savoir ce qui va marcher chez un patient. Donc ils essaient une molécule, puis
donc
une autre.
Donc c'est normal, si on vous fait changer d'antidépresseur, c'est normal.
C'est tout à fait normal. Mais après trois essais, donc après le premier essai du premier antidépresseur, il y a un tiers qui ne répond pas au traitement. Après trois molécules différentes, il y a encore 50% des personnes qui ne répondent pas à l'antidépresseur. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être 50% des dépressions qui sont liées à un déficit de cette sérotonine et de cette noradrénaline. Et donc quand vous corrigez ce déficit, ça va améliorer la situation du patient. Mais ça veut dire qu'il faut trouver d'autres solutions pour les autres patients qui ont peut-être des dépressions qui sont dues à d'autres causes.
Et c'est ce que vous faites au sein de votre laboratoire.
Voilà, c'est-à-dire actuellement, dans le domaine de la médecine d'ailleurs en général, ce qu'on essaie, c'est des approches plus personnalisées. C'est-à-dire, on va se dire que peut-être la dépression du sujet numéro 1 n'est pas due à la même cause que la dépression du sujet 2 ou le sujet 3. Et le système qu'il faut cibler pour obtenir une amélioration thérapeutique, pour obtenir une rémission, un bénéfice pour le patient, ne vont pas être les mêmes stratégies. Donc, ce qu'on essaie d'ailleurs de faire dans notre institut, c'est d'essayer de trouver des méthodes pour essayer de dire, eh ben, ce patient, il faut le soigner comme ça, et cet autre patient, il faut le soigner autrement. Donc, on essaie d'identifier au sein de la dépression comme des sous-types de dépression qui seraient dus à des causes différentes et qui nécessiterait des prises en charge différentes.
La vie est un art, Bénédicte Draillard.
Alors qu'est-ce que vous pensez de la psychothérapie pour des dépressifs?
Il existe toute une série de formes de psychothérapie, notamment les thérapies cognitivo-comportementales, qui ont tout à fait montré des effets bénéfiques. Alors actuellement, il existe, concernant les thérapies comportementales et cognitives, il existe différentes générations. Il y a des thérapies d'acceptation, par exemple, qui fonctionnent très bien.
Donc, ça veut dire quoi, une thérapie d'acceptation?
Accepter son état, déjà, pour commencer. Enfin, donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a des études à l'Université de Milan qui l'ont montré. Ce qui fonctionne également très bien, c'est la méditation pleine conscience. Ces deux approches fonctionnent, mais non seulement elles permettent d'obtenir des effets bénéfiques pour le patient, mais elles réversent, elles contrecarrent les altérations cérébrales que présentent ces patients. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, les patients dépressifs ont la modification du fonctionnement de certaines aires cérébrales.
Comme l'amygdale, par exemple.
Comme l'amygdale, le cortex préfrontal, l'hippocampe. Et ces modifications sont remises en route, sont restaurées par les psychothérapies.
Donc elles réparent
et par la méditation pleine conscience. Donc en fait, ces approches thérapeutiques ont des effets biologiques. C'est pas juste, je ne sais pas quoi, quelque chose d'évanescent, de psychologique. Elles modifient réellement. Alors, il y a des études d'ailleurs assez intéressantes qui ont été réalisées. On disait que il y avait dans la dépression l'altération de deux régions du cerveau, notamment le cortex préfrontal et l'amygdale. Ce qui a été montré, c'est que quand vous soignez une personne avec un antidépresseur, cet antidépresseur va, dans un premier temps, améliorer le fonctionnement de l'amygdale et, dans un deuxième temps, l'amélioration du le cortex préfrontal. Si vous prenez les psychothérapies, elles vont améliorer dans un premier temps le cortex préfrontal parce qu'elles vont jouer sur des processus cognitifs qui dépendent du cortex préfrontal et ensuite, dans un deuxième temps, vont agir sur l'amygdale. Mais ce qui fonctionne le mieux, c'est de combiner les deux. C'est-à-dire, il y a un effet synergique. Imaginons que L'effet de l'antidépresseur, il a un effet de niveau 5. L'effet de la thérapie cognitive est identique. Il a aussi un effet de niveau 5. Si vous combinez les deux, vous avez un effet niveau 15 ou 20. La combinaison fait plus que l'addition simple des deux. Si vous aviez l'addition simple, vous arriveriez que à 10. Enfin, ces chiffres sont totalement fictifs, hein. Mais les deux ensemble, ça permet des effets, comment dirais-je, bien plus importants.
Oui, mais vous disiez que sur 50% des personnes, les antidépresseurs ne font rien. Donc, dans ces cas-là, ils peuvent aller vers, entre autres, ces fameuses TCC.
Alors, les antidépresseurs ne fonctionnent pas chez 50% des personnes. Il y a deux explications possibles à ça. La première explication, c'est effectivement que ces personnes avaient une dépression qui était liée à d'autres causes que la neurotransmission, et donc il faudrait cibler ces autres causes pour les soigner. La deuxième explication, c'est que ces personnes ont pris l'antidépresseur dans un contexte qui n'était pas bon. C'est-à-dire, pour moi, l'antidépresseur, c'est un petit peu comme si vous donnez une béquille à une personne qui a des problèmes pour marcher. Si vous lui donnez la béquille et qu'elle reste assise, ça va avoir aucun effet. La béquille est juste quelque chose qui va aider la personne à recommencer à marcher. Mais pour améliorer l'état de la personne, il faut qu'elle marche effectivement et qu'elle fasse un peu de rééducation. Donc pour moi, les antidépresseurs, c'est un petit peu pareil. C'est quelque chose qui va vous aider à vous remettre en route. Mais si ça ne fait que vous aider à vous remettre en route et que vous ne vous mettez pas en route, l'effet sera nul. Donc je pense qu'une partie de l'échec thérapeutique est aussi liée au fait que les personnes ont juste pris l'antidépresseur sans associer ça à une modification des processus cognitifs par une thérapie cognitive ou comportementale, une modification de l'environnement, du contexte.
Est-ce que vous mettez là-dedans aussi tout ce qui est hypnose, EMDR par exemple ?
Alors, ce sont des pathologies qui ont fait grand bruit. On ne sait pas actuellement comment elles pourraient fonctionner. Les études, en fait, en double aveugle, qui ont été réalisées sur ces pratiques, montrent que l'effet, alors, pour le MDR, est un effet placebo. Donc, si vous faites ça, si vous faites une étude dans laquelle vous ne mettez pas de groupe placebo, la thérapie aura un effet. Mais par contre, cet effet n'est pas supérieur au placebo. Mais un effet placebo, c'est un effet quand même. Enfin, on ne va pas dire que ce n'est pas un effet. Ça apporte un bénéfice aux patients.
Que préconisez-vous donc alors ?
C'est d'associer un traitement avec un antidépresseur à une psychothérapie, cognitivo-comportementale si possible, ou bien de la méditation pleine conscience, l'un ou l'autre fonctionnera. Et puis en plus, de remettre la personne en activité, c'est-à-dire de la pousser à sortir, à voir des gens, à faire du sport. C'est-à-dire les études les plus récentes, notamment sur les effets des antidépresseurs, ont par exemple montré que les antidépresseurs, en plus d'augmenter la neurotransmission, augmentent également les connexions entre neurones et permettent la fabrication de nouveaux neurones.
La neurogénèse, c'est ça ?
Ce qu'on appelle la neurogénèse. C'est-à-dire, longtemps, on a pensé que chez un sujet adulte, il n'y avait pas de nouveaux neurones qui naissaient quand ce sujet était adulte. En fait, une personne comme, par exemple, Ramón y Cajal, qui était prix Nobel de physiologie et de médecine dans les années 30 pour ses travaux en neurosciences, disait que chez l'adulte, les cellules ne faisaient que disparaître. Tout meurt, rien ne se régénère, disait-il. On sait actuellement que ça, c'est faux. Que dans certaines régions du cerveau humain, il y a des nouveaux neurones qui naissent tous les jours. Et par ailleurs, dans l'ensemble des régions du cerveau, il y a des connexions cérébrales qui se fabriquent, qui se font et qui se défont en l'espace de quelques heures. Le cerveau est quelque chose de plastique qui se modifie tout le temps. Or, les antidépresseurs augmente le nombre de nouveaux neurones et augmente le nombre de connexions entre neurones.
Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces nouveaux neurones ?
Donc effectivement, si vous faites qu'augmenter des nouveaux neurones et que vous n'en faites rien, c'est-à-dire si ces nouveaux neurones ne sont pas insérés dans un réseau fonctionnel, c'est-à-dire s'ils ne savent pas quoi faire, si je puis dire, ça n'aura aucun effet. Enfin, il faut que le sujet soit placé dans un environnement stimulant Et à ce moment-là, ces nouveaux neurones vont l'aider à trouver des ressources pour s'insérer correctement dans cet environnement stimulant.
D'où l'intérêt de ne pas prendre que des antidépresseurs, mais aussi de faire, par exemple, une psychothérapie.
Voilà, c'est pour moi...
Pour orienter ces nouveaux neurones dans le bon sens.
En gros, c'est ça. Parce qu'il y a même des travaux qui ont été publiés il y a 2 ans, qui ont montré que si vous faites l'antidépresseur tout seul, ça peut avoir un effet, mais comme on a dit, le taux de succès est assez faible. Si vous combinez l'antidépresseur avec une psychothérapie, ça aura des effets bénéfiques bien supérieurs à l'un des deux traitements tout seul. Par contre, si vous prenez l'antidépresseur et que le sujet est dans un milieu défavorable, l'antidépresseur peut empirer sa condition. C'est pas seulement avoir des effets nuls, mais même empirer sa condition parce que l'antidépresseur aura comme effet de stimuler la neurogenèse et les connexions entre neurones. Et ces nouveaux neurones ou connexions vont servir pour des choses qui ne sont pas des choses bienfaisantes pour le patient.
Prenons un exemple.
Le patient est mis dans un environnement qui le pousse à tout voir en noir, un environnement où il ne sort jamais de chez lui. Dans ce cas, l'antidépresseur peut même avoir un effet... Je dirais, enfin, le mot qui vient, c'est maléfique, enfin, un effet défavorable, on va dire, chez le sujet.
Nous parlons de la dépression et nous n'avons pas encore parlé de la psychanalyse.
Oui, alors la psychanalyse, je ne suis pas convaincue qu'elle puisse avoir des effets dans des pathologies psychiatriques. Je pense que c'est plus une approche qui peut sans doute permettre à des personnes de réfléchir sur elles-mêmes. Mais pour moi, c'est plus une approche qui peut avoir des effets chez un sujet sain que chez un sujet pathologique. Parce que le sujet pathologique ayant des dysfonctionnements cérébraux assez poussés, je ne pense pas qu'une psychothérapie soit suffisante pour lui permettre de se remettre en route.
Pourtant, beaucoup vont voir un psychanalyste, en France spécifiquement, quand ils ont un peu un état dépressif.
La France est un pays qui se distingue un petit peu pour ça, avec l'Argentine en fait. C'est deux pays du monde chez lesquels la pratique de la psychanalyse est la plus développée. Mais il n'y a pas d'études sérieuses qui a permis de montrer des effets.
Les anglo-saxons vivent les choses très différentes.
Oui, les anglo-saxons sont effectivement plus pragmatiques et donc s'orientent aussi vers des psychothérapies, mais vers des psychothérapies cognitivo-comportementales qui, elles, ont montré des effets.
Et la fameuse vitamine D, est-ce que ça peut avoir une influence ?
Je pense que ça pourrait avoir des influences, ça pourrait avoir un impact dans certaines formes de dépression. Par exemple, les dépressions, ce qu'on appelle les dépressions saisonnières, qui sont des dépressions qui surviennent, alors surtout dans les contrées qui sont situées assez au nord et qui surviennent dans la période hivernale quand l'éclairement est très diminué. Donc, chez ces personnes-là, effectivement, ces formes de dépression sont soignées par luminothérapie. Et chez ces traitements-là, un apport en vitamine D peut se révéler utile parce que ça va, vitamine D dépend beaucoup de la lumière. Et du coup, ça peut avoir un effet bénéfique, je pense, en particulier dans cette forme-là
de dépression légère.
De dépression légère, voilà, qui peuvent être prises en charge facilement par des luminothérapies assez, assez poussées.
Alors certains, on peut penser aussi aux dépressions après un accouchement.
Voilà, il y a la dépression postpartum, qui effectivement est une dépression tout à fait réelle, qui survient quelques jours après un accouchement, dépression qui peut être très grave, et effectivement qui aussi doit être prise en charge de manière spécifique. Il y a actuellement des traitements qui sont développés qui concerne plus particulièrement cette forme de dépression parce que il y a tout un bouleversement hormonal au moment de la naissance et probablement que cette forme-là de dépression est liée plutôt à ça. Donc il y a actuellement des développements dans ce sens-là.
Peut-il y avoir des dépressions qui sont dues au fait de pas bien dormir, par exemple les gens qui font les apnées du sommeil?
Le lien entre dépression et sommeil est un lien assez, assez compliqué puisque déjà il y a parmi les personnes déprimées, certaines qui dorment plus, d'autres qui dorment moins bien. Et parmi celles qui dorment moins bien, on ne sait pas si l'hyposomnie est une cause ou une conséquence de la dépression. Parce qu'il se pourrait que ce soit une conséquence de l'état dépressif, mais il se pourrait aussi que le fait de dormir peu ou mal entraîne une dépression. Enfin, donc en même temps, c'est un symptôme, mais ça pourrait aussi être une cause.
Mais le fait de ne pas être très bien oxygéné quand on fait des apnées du sommeil, est-ce que le cerveau est peut-être moins oxygéné ou c'est peut-être réducteur ?
En fait, s'il était moins bien oxygéné, ça concernerait toutes les régions du cerveau, pas spécifiquement les régions altérées dans la dépression. Donc moi, je pense que si les personnes qui ont des apnées du sommeil développent un état dépressif, à mon avis, c'est lié au fait que ces personnes ont un sommeil de très mauvaise qualité. Vous savez que le sommeil, ça sert à beaucoup de choses. Pendant le sommeil, on revisite sa journée, on revoit tout ce qui s'est passé pendant la journée. En fait, il y a une fonction comme, on appelle ça une fonction replay, qui se déroule dans le cerveau pendant le sommeil. Alors, si la personne a une qualité du sommeil moindre, ses fonctions vont peu exister, et peut-être ça pourrait contribuer, outre la fatigue, à leur état dépressif. Mais pour l'instant, ça n'a pas été démontré.
Un grand merci à Catherine Belzouk. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour continuer à parler ensemble de la dépression.